And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain.
La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique.
The human brain really is the most unique gift of our species.
Avec Christophe Rodeau.
Avant d'être une maladie diagnostiquée et traitée chez des millions de personnes à travers le monde, il faut la rencontre entre un médecin et des patients pour que celle-ci puisse être mise en évidence.
La tête dans le cerveau.
En 1817, un médecin anglais présente, dans un article, le cas de 6 patients afin de caractériser l'existence d'une maladie pour permettre d'aider ses confrères à identifier les personnes en souffrant dans le but de mieux comprendre, prendre en charge et soigner cette maladie. Une maladie qui aujourd'hui est diagnostiquée à plusieurs millions de personnes. Voici la description de ces 6 patients. Le premier patient, d'abord suivi par un des confrères de l'auteur de l'étude, est un homme d'un peu plus d'une cinquantaine d'années, ayant exercé le métier de jardinier et ayant mené une vie sans excès. Les premiers symptômes de la maladie se sont manifestés par de légers tremblements de la main et du bras gauche. Ceci, sans raison apparente et sans antécédents médicaux particuliers. Puis, les tremblements ont gagné l'autre bras et se sont petit à petit propagés au reste du corps. À ces tremblements, des atteintes de la posture et de la marche se sont ajoutées. Ainsi, une diminution de la force musculaire. Le deuxième patient est un homme de 62 ans, rencontré au détour d'une rue. Un homme ayant passé la majeure partie de sa vie comme assistant d'un magistrat, ayant eu un mode de vie assez excessif, notamment concernant l'abus de liqueurs spiritueuses. Au moment de sa rencontre avec le médecin, cet homme souffrait de la maladie depuis 8 à 10 ans. Tous ses membres étaient agités de tremblements importants, sa parole était saccadée et sa posture était penchée vers l'avant. Il marchait presque entièrement sur la partie avant de ses pieds et serait tombé à chaque pas qu'il faisait s'il n'avait pas été soutenu par son bâton. Il a décrit l'évolution de la maladie comme très progressive. Le troisième patient a également été repéré par hasard dans la rue. C'est un homme de 65 ans, à la carrure athlétique, ayant été marin. L'agitation de ses membres, de sa tête et de tout son corps était telle qu'il était difficile de seulement les qualifier de tremblements. Il était incapable de marcher, son corps étant tellement courbé vers l'avant qu'il était obligé de courir continuellement et d'utiliser son bâton tous les 5 à 6 pas pour arriver à se tenir un peu plus droit. Le quatrième patient, qui se présenta de lui-même au médecin, est un homme d'environ 55 ans, ayant commencé à ressentir pour la première fois des tremblements au niveau des bras environ 5 ans auparavant. Puis, c'est sa posture qui s'est courbée vers l'avant jusqu'à provoquer une inflammation au niveau de ses côtes sur le côté gauche. très peu d'éléments sont connus sur le cinquième patient, si ce n'est qu'il manifestait une incapacité à se mouvoir particulièrement exacerbée. Il ne pouvait se déplacer qu'au pas de course et une personne devait obligatoirement l'accueillir en étant devant lui à son arrêt jusqu'à ce que, en se balançant doucement d'avant en arrière, il se soit mis en équilibre, sans quoi la chute en avant était quasiment assurée. Le sixième patient est, lui, bien plus documenté. Il s'agit d'un homme âgé de 72 ans, ayant mené une vie assez calme et sans excès, et n'ayant aucun antécédent médical, hormis un lumbago particulièrement sévère il y a une vingtaine d'années. Ses premiers symptômes ont commencé à apparaître il y a environ 11 à 12 ans, avec une faiblesse dans la main et le bras gauche. Puis, peu après, les tremblements ont commencé. Environ 3 ans plus tard, le bras droit a été affecté de la même manière. Puis, les tremblements se sont propagés au buste et ont commencé à entraver la parole. Encore 3 ans plus tard, ce sont les jambes qui ont été touchées. Lors de la marche, il avait lui aussi des difficultés à se retenir de courir sous peine de tomber en avant, et il ressentait une grande difficulté à ne serait-ce que lever les pieds. Mouvements tremblants involontaires, posture et marche altérée, diminution de la force musculaire. Par la description de ces différents patients, le médecin derrière leur mise en lumière plaide pour l'identification d'une nouvelle maladie touchant au mouvement, jusqu'alors mal caractérisée. Une mauvaise caractérisation due, en partie, au fait que cette maladie s'aggrave avec le temps, les différents stades d'évolution de celle-ci ayant été considérés à tort par certains des confrères de l'auteur de l'étude comme des pathologies distinctes. À cette nouvelle maladie, le médecin, derrière la description de ses patients, proposera de reprendre le terme latin de « paralysis agitans », qui pourrait se traduire par « paralysie tremblante, secouante ou agitante ». Mais l'histoire ne retiendra pas ce nom. Cette maladie sera finalement et pour toujours associée, en l'honneur de celui l'ayant caractérisé, au nom de ce médecin, auteur de cette étude publiée en 1817. Il s'appelait James Parkinson. Depuis 1817, les connaissances sur la maladie de Parkinson, tout comme le développement de traitements permettant de soulager les malades souffrant de cette pathologie, ont grandement progressé. Mais à l'heure actuelle, il n'est toujours pas possible de guérir de cette maladie et les mécanismes de cette pathologie recèlent encore de très nombreux mystères. C'est grâce au travail combiné mêlant scientifiques, malades et médecins que des avancées pourront être réalisées. Mais pour ce faire, comme pour toute recherche, il faut malheureusement du temps, mais aussi et surtout de l'argent. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente ». Il est écrit par l'équipe de rédaction de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en collaboration avec Jean-Christophe Corvol, Olga Corti et Stéphane Huno, et il est à retrouver sur le site inserm.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de comment la rencontre entre des patients et un médecin peut permettre de révéler l'existence d'une maladie touchant, en réalité, des millions de personnes. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 47 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la rencontre entre une patiente et son médecin qui a, elle aussi, permis de mettre en lumière une maladie extrêmement connue de nos jours, touchant le cerveau, et qui était jusqu'alors non caractérisée. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de la deuxième édition du Podcaston, un événement caritatif auquel plusieurs centaines de podcasteuses et podcasteurs participent afin de mettre en lumière une association ou un organisme dans le but de récolter des dons pour leurs actions. Par cet épisode, j'ai souhaité parler de la FRC, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau qui regroupe plusieurs organisations, fondations et associations dont l'association France Parkinson, et dont le but est de soutenir la recherche sur le cerveau. Pour les y aider, vous pouvez faire un don en temps ou en argent. Pour tout savoir de leurs actions et ou pour les soutenir, rendez-vous sur le site frcneurodon.org. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, s'il vous reste quelques euros après avoir donné à la FRC, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Banque Banque du podcast.
Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.